à apporter un message qui correspond à ce qu'il a envie de vous dire, à nous dire ce matin. Seigneur, je te prie pour vraiment ce temps de message où nous sommes là pour écouter ta parole, pour écouter ce que tu as à nous dire. Et je te prie aussi de me donner la force et aussi l'inspiration, le discernement pour vraiment parler de toi, pour toi, en ton nom, et non pas en mon nom à moi. Et tout ce que je pourrais dire en mon nom à moi, fais en sorte que ça finisse aux oubliettes dans les mémoires. Amen. Amen. Alors, on va continuer effectivement notre série sur l'histoire d'Élie. Je crois que c'est la deuxième ici, hein, c'est le deuxième ici. Donc on va lire 1 Roi 17, versets 8 à 24. Et comme nous l'avons vu la semaine dernière, je pense que Serge vous en a parlé, cette histoire se situe à une époque assez sombre de l'histoire d'Israël. On est sous le règne d'un roi Akab, qui est peut-être le pire roi qu'a eu le royaume du Nord. Peut-être, il y en a peut-être d'autres, mais à mon avis, de mon point de vue, il me semble que c'est le pire. Il est influencé par sa femme Jézabel. Et Akab impose peu à peu, en Israël, le culte de Baal au détriment de celui de l'Éternel. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont tous abandonné l'Éternel, mais vous verrez au chapitre suivant que ils hésitent tantôt avec Baal, tantôt l'Éternel, Baal, l'Éternel. Enfin, voilà. Donc, l'idolâtrie en Israël, maintenant, n'est plus marginale. Elle façonne désormais toute la société, et puis le pouvoir, et même la religion. Puis, vous l'avez vu, surgit le prophète Élie qui annonce au verset 1 du chapitre 7 une sécheresse totale. Plus de pluie. Plus de rosée, évidemment. Rien. Quand je parle de rosée, ce n'est pas le vin, hein, je précise. Plus de rosée, parce que on voit bien que quand il y a la sécheresse, il n'y a même plus de rosée. Je ne sais pas si vous vous rappelez 2003. Hein. Dans un monde agricole, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la condamnation à mort. Notez que c'est aussi une attaque frontale contre Baal, qui est censée contrôler la pluie, c'est le dieu de la fertilité, voilà. Donc, il est le dieu de l'orage, de la pluie, et il n'y a plus de pluie, plus rien. Puis au verset 2 à 7 de ce même chapitre, Élie disparaît pour échapper, évidemment, à Akab et Jézabel. Il est caché près d'un torrent, ravitaillé par les corbeaux. Il survit jusqu'à ce que l'eau elle-même disparaisse. La sécheresse gagne et tout s'effondre. C'est dans ce contexte de famine et de tension extrême que Dieu envoie Élie ailleurs et pas n'importe où, à Sarepta, en territoire païen. Mais avant de... Vous connaissez cette histoire. C'est une histoire que, si vous êtes fréquenté l'Église depuis plusieurs années, certains d'entre vous ont déjà prêché dessus, j'en suis sûr. Vous avez entendu 10 fois cette histoire. Peut-être même plus, pour certains. Si vous étiez à l'école du dimanche, vous avez encore entendu peut-être plus. Donc, je vous invite... Je vais essayer de vous encourager à oublier ce que vous savez et essayer de vous mettre dans la peau d'Élie, qui, lui, ne sait pas ce qui va se passer. Vous savez ce qui va se passer. On sait tous ce qui va se passer. On va essayer de se mettre dans la peau d'Élie. On va vivre les événements au fur et à mesure en essayant de dire, bah, tiens, qu'est-ce qu'il a pu ressentir. Et pour ajouter à tout cela, imagine que dans ta vie, tout prospère, tout va bien, et puis brutalement, tu perds tout. Tu perds ton boulot, tu perds tout, tu n'as plus rien. Travail, finances, tu perds tes repères, plus rien n'est sûr, tu dois vivre sans rien contrôler, on n'aime pas ça, hein. Tu dois vivre sans rien contrôler et accepter l'incertitude. En ce moment, le climat géopolitique nous y amène petit à petit. Mais voilà, essayez de vous mettre dans la peau. On va commencer la lecture. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. J'y ai ordonné à une veuve, une femme veuve, de te nourrir. Il se leva et partit à Sarepta. En arrivant À l'entrée de la ville, il y vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et dit « Je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit « Je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. » Elle répondit « L'Éternel, ton Dieu, est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser deux morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit « N'aie pas peur. Rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. » Elle partit et se conforma à la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille et Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Après ces événements, le fils de cette maîtresse de maison tomba malade. Sa maladie fut si violente qu'il cessa de respirer. Autrement dit, il est mort. La femme dit alors à Élie, « Que me veux-tu, homme de Dieu ? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit des bras de la femme et le monta dans la chambre à l'étage où il logeait et le coucha sur son lit. Puis il fit appel à l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu vas faire du mal au point de faire mourir son fils, même à cette veuve qui m'a accueilli chez elle ?» Puis il s'étendit trois fois sur l'enfant, fit appel à l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne en lui. » Et l'Éternel écouta Élie, l'âme de l'enfant revint en lui et il retrouva la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre jusque dans la maison et le donna à sa mère en lui disant, « Vois, ton fils est vivant. » La femme dit alors à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vraie. » Je ne me suis pas trop fatigué pour trouver une idée centrale. Dieu agit dans la crise. Dieu agit dans la crise. Et nous allons voir cela en trois points, puisque ce texte nous parle finalement de la foi. Donc la foi confrontée au manque, la foi confrontée à la tragédie et la foi confirmée par la puissance de Dieu. Commençons par la foi face au manque. Nous avons lu au verset 8 à 11 que l'Éternel envoie Élie à Sarepta, ville de Phénicie appartenant à Sidon, où une veuve doit le nourrir. Alors, vous avez la carte, je vous ai mis une petite carte, c'est en anglais. Donc Élie part de l'étang de Kérit, que vous voyez à gauche sur la première image. Il suit le chemin en rouge probablement pour arriver à Sarepta, qui se trouve au bord de la Méditerranée ou proche de la Méditerranée. Il part donc d'un endroit montagneux et il va jusque là-bas. Ça fait, j'ai estimé à la louche, à peu près entre 100 et 120 kilomètres. Alors, comment Élie a su que c'était la bonne veuve ? Le texte ne nous le dit pas. On ne sait pas. Le texte ne donne aucune information. Jusque-là, bon, il n'y a rien d'étonnant. Élie vient de parcourir ses 100 bornes, 120 bornes, probablement sur plusieurs jours. Il est fatigué, il est assoiffé, il a faim, probablement. Notez au passage que la loi de l'Ancien Testament n'interdit pas aux Juifs d'entrer chez un non-juif ou de le fréquenter. La Torah ne le dit pas. C'est une loi qui est apparue plus tard, au moment des pharisiens. Ce n'est pas un commandement biblique. Mais pourquoi Sarepta en Phénicie ? Pourquoi ? Il y a beaucoup de pourquoi dans ce texte. Hein. Tout d'abord, pour échapper au couple royal maléfique. Hein. Ça, c'est sûr, Akab et Jézabel. Ensuite, parce que Sarepta relève de Sidon, comme le précise le verset 9. Et si le verset 9 mentionne Sidon, c'est qu'il a une bonne raison de le faire. En effet, Sidon est la patrie de Jézabel, femme d'Akab. Cette femme a une forte influence sur son mari. Elle est autoritaire, déterminée et prête à tout. Dans, un peu plus loin, on voit l'histoire de la vigne de Naboth. Vous pourrez voir en lisant ce texte à quel point elle est prête à tout. Elle est prête à tout pour imposer son pouvoir. Jézabel incarne dans le récit biblique l'idolâtrie et l'abus du pouvoir. Peut-être que l'auteur biblique a aussi forcé le trait à propos de Jézabel, mais bon, c'est ce qu'elle incarne dans la Bible. C'est elle qui a imposé en Israël le culte de Baal, le dieu supposé maîtriser la pluie, la fertilité, alors que la sécheresse démontre l'impuissance de Baal, rival de l'Éternel dans le cœur des Israélites. Et c'est sur ce territoire-là que l'Éternel envoie son prophète. Pourquoi Dieu envoie-t-il Élie vers une veuve étrangère plutôt que vers une Israélite ? Eh bien, Jésus cite cet épisode en Luc 4, 24, où il retourne dans la région où il a grandi, et on lui dit, mais finalement, il va à la synagogue, il prêche, il parle. Et puis, les gens, ils disent, ils ont entendu parler de ce qu'il a fait ailleurs, et ils voudraient qu'il refasse la même chose là. Et Jésus dit, non. En insistant auprès de Jésus, il démontre qu'ils n'ont pas de foi. Et là, il renvoie à cette histoire de Sarepta. Donc, alors, comme j'ai des yeux qui vont de moins en moins bien, il faut que je m'y retrouve. Excusez-moi. Donc, on se retrouve à une époque, il y a un petit parallèle entre cette époque d'Akab et Jézabel où on avait abandonné l'Éternel et l'époque où Jésus a été confronté aux gens de sa région natale, enfin, pas natale, mais la région où il a grandi, où on lui a dit, finalement, tu n'es que le fils de Joseph, montre-nous. Il voulait absolument qu'il fasse des miracles. Et Jésus leur a dit non. Élie, vous voyez, il y a eu cette histoire à Sarepta. Dieu est intervenu ailleurs qu'en Israël, lorsque la foi a manqué à Israël, comme c'était le cas dans la Galilée. Il a rapporté cet événement dans son propos. Donc, un autre lien avec cette histoire. Notez que cette ouverture de Dieu envers une étrangère à Sarepta n'est pas un accident isolé. Elle dénonce déjà ce que l'Église reconnaîtra plus tard dans le débat d'Acte 15, lorsque certains croyants juifs voulaient imposer la circoncision aux non-juifs. Et Pierre a rappelé que Dieu avait déjà accordé son salut aux nations en leur donnant même, et aujourd'hui c'est une connotation particulière, en leur donnant même le Saint-Esprit, sans faire de distinction. Sans transition, les versets 12 à 13 de notre texte indiquent que cette veuve est sans ressources. Elle n'a qu'un dernier repas à s'offrir avant de mourir avec son fils. Elle le jure. Elle le jure à Élie en disant « Oh, l'Éternel, ton Dieu vivant !» Et elle explique qu'elle n'a plus rien, ou presque. Et c'est pourtant à elle que Dieu demande de nourrir Élie. Et moi, je me dis, logiquement, n'aurait-il pas mieux fallu envoyer Élie vers une personne riche à Sarepta ou ailleurs, en Phénicie ? Ça aurait été quand même capable, cette personne aurait été capable de nourrir Élie jusqu'à la fin de la sécheresse. Pas vous ? Vous n'êtes pas posé la question parce que vous connaissez tellement bien l'histoire. Voilà une démonstration de plus que la sagesse de Dieu dépasse souvent nos propres calculs. Au verset 14 à 16, Élie appelle la veuve païenne à la confiance. Elle lui transmet la promesse de l'Éternel, la farine et l'huile ne manqueront pas jusqu'au retour de la pluie. La veuve obéit et Dieu pourvoit durablement leurs besoins, conformément à sa parole. À travers cette veuve indigente, Dieu manifeste sa puissance, comme nous l'avons chanté. Alors que Baal est incapable de mettre fin à la sécheresse ou même de nourrir ses adorateurs, l'Éternel se révèle comme celui qui pourvoit même dans l'extrême pauvreté. Et ce récit prépare le lecteur à la confrontation décisive du mont Carmel entre l'Éternel et les prophètes de Baal, au chapitre 18. Et qui pose la question, cette confrontation pose la question, mais qui est le vrai Dieu ? Qui est le Dieu qui est le vrai maître de la pluie, qui est le vrai maître de la vie ? Est-ce l'Éternel ou est-ce Baal ? Cet épisode fait immanquablement écho à la manne que Dieu a pourvue jour après jour aux Israélites dans le désert. Il s'inscrit dans une lignée de récits semblables. On pense à la multiplication de l'huile par Élisée, un peu plus tard, et dans le Nouveau Testament, la multiplication des pains accomplie par Jésus de Nazareth. Alors pour résumer ce premier point, Dieu envoie Élie à Sarepta, en territoire de Sidon, non pas chez des forts, mais chez une veuve étrangère, pauvre et sans ressources. Donc nous constatons que Dieu ne se limite pas, l'Éternel n'est pas limité au territoire d'Israël. L'Éternel commence à former Élie, ou forme Élie et la veuve, à dépendre totalement de lui. Et puis une vérité commence à s'imposer, l'Éternel pourvoit là où Baal est impuissant. Alors là, rappelez-vous, vous devez immédiatement oublier ce que vous savez de l'histoire. On se met au niveau d'Élie, on ne sait rien de ce qui va se passer, on va voir les événements, et puis on oublie tout ce qu'on a appris à l'école du dimanche et ailleurs. Alors bon, jusqu'ici, tout baigne. Ça semble clair, Dieu pourvoit. Nous, en tant que chrétiens, on n'est pas surpris. La farine ne manque pas. La vie est totalement préservée grâce à la providence de Dieu. On va passer au deuxième point, la foi confrontée à la tragédie. Relisons les versets 7 à 19 qui, quelque part, sont un peu la pointe de ce récit. Après ces événements, le fils de cette maîtresse de maison tomba malade. Sa maladie fut si violente qu'il cessa de respirer. Et la femme dit alors à Élie, « Que me veux-tu, homme de Dieu ? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit des bras de la femme, le monta dans la chambre à l'étage où il logeait et le coucha sur son lit. Alors, imaginez, vous êtes Élie, vous découvrez l'histoire. Qu'est-ce qui se passe ? Et vous êtes la veuve. Qu'est-ce qui se passe ? Le fils tombe malade et meurt. Pour la veuve, il n'y a plus de perspective d'espoir, parce que dans ses vieux jours, elle attendait l'aide de son fils, et elle n'en a plus. Tout espoir est perdu, est fini. Pour Élie, alors, même si cette veuve semble craquer, quelque part, jusqu'à maintenant, elle devait être ravie de ce qui se passait, là, elle craque. Pourquoi ? Elle ne dit pas pourquoi. Mais tout ce qu'elle dit montre qu'elle est perdue. Dieu me punit-il à cause de mes fautes passées, qu'elle reconnaît implicitement. Et sa foi, qui était naissante jusqu'à maintenant, commence à s'effondrer. Elle accuse Élie. Oh, il faut bien trouver un responsable à tous ces maux. On connaît ça dans la vie courante. Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils ? Mais même Élie, il est perdu là. Si vous regardez bien le texte, lui qui parlait avec assurance ne comprend plus. Alors, il ne dit pas non plus pourquoi, mais tous ses propos montrent qu'il est perdu. Pourquoi, Seigneur ? Pourquoi elle ? Et le prophète ne sait plus quoi dire. Et nous non plus. La foi protège-t-elle vraiment des malheurs ? Est-ce que Dieu est toujours bon ? Quand tout s'effondre ? Aucune réponse. Et il n'y a en effet aucune réponse directe à la souffrance. On n'a pas d'explication. Alors que retenir de ce deuxième point ? D'abord, la foi n'élimine pas les épreuves. Obéir à Dieu ne te protège pas du drame. Et cette semaine, j'ai rencontré une personne d'Albertville qui me disait qu'elle est allée dans une église où son fils est ancien, dans la région parisienne, et où ils ont un pasteur stagiaire qui, finalement, enseigne l'évangile de prospérité. Avec Dieu, tout va bien. Oh, tu vas être béni, tu vas être riche, etc. C'est pas ça du tout. Cette histoire nous dit que finalement, même quand on a foi en Dieu, on peut être confronté à la souffrance. Alors, j'aurais préféré vous dire le contraire. Personnellement, j'aurais bien préféré vous dire le contraire. Mais non, ce n'est pas ce que nous montre ce texte. Et puis on voit que croire n'empêche pas de temps en temps à se trouver en détresse, de, d'avoir sa foi qui vacille face à l'épreuve. Et la foi, elle n'élimine pas les questions, tous les pourquoi que nous pouvons avoir lorsque nous sommes dans l'épreuve. Et puis, on voit que Dieu agit, mais on ne comprend pas toujours pourquoi. D'un côté, il nourrit cette famille durant plusieurs mois, et d'un autre côté, l'enfant meurt. On ne comprend pas. Tout semble fini. L'enfant est mort. La foi de la veuve en a pris un sérieux coup. Et Dieu ne dit rien à son prophète. Il ne lui donne aucune explication. Mais le suspense reste entier. Vous avez bien oublié ce que vous savez sur le suspense reste entier. Que va-t-il se passer? Est-ce que Dieu va intervenir ou se taire définitivement? Alors on va voir ça tout de suite. La foi confirmée, le dernier point, la foi confirmée par la puissance de Dieu. Après le silence, après le silence, après les questions restées sans réponse, au verset 20 à 24, le récit bascule. Élie ne donne aucune explication à la veuve. Il n'essaie pas non plus de défendre Dieu. C'est une preuve de sagesse. Parfois, il nous arrive de chercher à défendre Dieu dans des situations complexes. Et parfois, la plupart du temps, on a meilleur temps de se taire parce qu'on ne sait pas. Il prend l'enfant, monte dans la chambre haute et se tourne vers l'Éternel. Non pas avec une foi triomphante et assurée, mais avec une prière assez tendue, urgente, presque déroutante. Il crie à Dieu. « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu vas faire du mal au point de faire mourir son fils, même à cette veuve qui m'a accueilli chez elle ?» Il est perturbé, il est troublé. Puis, il s'étend sur l'enfant, une fois, deux fois, trois fois. Le texte ne nous dit pas pourquoi. Cherche-t-il à transmettre la vie par sa propre vie? Il se couche pour transmettre sa vie. Est-ce un geste désespéré ou une forme de supplication incarnée? On ne sait pas. Une chose, en revanche, est parfaitement claire. Ce n'est pas le geste qui agit. Même si un procédé similaire apparaît plus tard avec Élisée ou Paul de Tarse, il ne s'agit jamais d'une méthode, encore moins d'une technique. Le cœur du récit est ailleurs. Élie prie. C'est même la première fois dans cette histoire qu'il s'adresse directement à Dieu. Et Dieu fait remarquable, Dieu ne parle pas, il n'explique rien, il ne justifie pas son silence précédent. Il écoute et il agit. Le récit est d'une sobriété presque dérangeante. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais tu aurais pu donner plus d'explications, qu'on comprenne mieux. Non, rien. Dieu écoute, Dieu agit, et l'enfant revient à la vie. Pas de mise en scène spectaculaire, pas d'effet dramatique, en dehors de celui que j'essaie de faire. Juste un fait brut et bouleversant. L'enfant revit, la mort recule. C'est la première résurrection rapportée dans la Bible. Et ce n'est ni en Israël, ni pour un croyant exemplaire. C'est chez une veuve païenne, étrangère à l'Alliance, que la puissance de Dieu se manifeste ainsi. Élie redescend, il rend l'enfant vivant à sa mère et tout change. La femme ne pose plus de questions, elle ne cherche plus d'explications. Elle confesse simplement au verset 24. « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vraie. » Alors, on pourrait quand même un peu s'étonner, après tout ce qu'elle a vécu, qu'elle attende que ce moment-là pour reconnaître que la parole de Dieu est dans la bouche d'Élie. Elle a vu la farine toujours là pendant des semaines ou des mois, l'huile pareil, miraculeusement renouvelée. Mais ce qu'aucune provision de nourriture n'a pu faire, la résurrection de son fils l'a accomplie. Sa foi passe de la survie à la conviction, de l'expérience à la certitude. Dieu n'a pas expliqué, Dieu a agi, et cela a tout changé. Dieu n'est pas seulement celui qui pourvoit au quotidien, il est celui qui redonne la vie. Il n'est pas seulement plus fort que la famine, il est plus fort que la mort. À ce point du récit, le contraste avec Baal devient écrasant. En effet, dans la mythologie cananéenne, Baal est un dieu majeur. Il combat la mer, Yam, affronte la mort, Moth, meurt et revient à la vie. Alors ces cycles, ces récits symboliques symbolisent simplement les récits naturels de la sécheresse et de la fertilité, de la mort et de la renaissance. Mais face à la mort réelle d'un enfant, Baal, il reste muet. L'Éternel, lui, agit réellement. Là où Baal est un mythe cyclique, l'Éternel est un Dieu vivant. Et ce que vit Élie à Sarepta trouve un écho saisissant dans Luc, chapitre 7, verset 11 à 15, lorsque Jésus ressuscite la veuve de Naïn. Les parallèles sont frappants. Une veuve, un fils unique, la mort, puis la vie rendue et la reconnaissance de l'action de Dieu. Mais une différence change tout. Élie prie, Jésus commande. Là où Élie dépend entièrement de Dieu, Jésus agit avec autorité. Ce que Dieu fait par l'intermédiaire d'un prophète, Jésus le fait par sa propre parole. Et plus encore, par sa propre résurrection, Jésus a vaincu définitivement la mort et ouvre l'espérance d'une vie nouvelle à tous ceux qui croient en lui. Alors, pour conclure ce troisième point, nous avons vu que, d'abord, la foi authentique ose crier vers Dieu sans filtre, même quand on ne comprend pas, même quand on est fâché, même quand on est déçu, sans filtre. L'Éternel ne remplit pas seulement les jarres, il relève les morts. Là où Baal reste impuissant, l'Éternel agit. Lui seul a le dernier mot. Et ce Dieu révélé par Élie se manifestera pleinement en Jésus-Christ. Non seulement capable de relever les morts, comme avec Lazare, mais prêt à entrer lui-même dans la mort pour offrir la vie en abondance. En Jésus, le Christ, la mort est vaincue définitivement. Alors pour conclure, au torrent de Kérit à Sarepta et jusque dans la chambre où repose un enfant sans vie, le récit nous montre un Dieu qui agit. Alors c'est un récit. Un récit n'est jamais normatif, on ne peut pas tirer des leçons d'un récit sans avoir... Donc je vais faire ce que je ne devrais pas, c'est-à-dire tirer des leçons de ce récit, mais en même temps, je vais vous mettre au moins une référence plus dogmatique dans ce que je vais affirmer maintenant. Dieu est suffisant quand nos ressources s'épuisent. J'ai cité le psaume 23, mais j'aurais pu citer Habacuc, Ésaïe, Matthieu, 2 Corinthiens, Philippiens, par exemple. Donc, Dieu est suffisant quand nos ressources s'épuisent. Est-ce qu'on arrive à le croire dans cette période un peu troublée? Alors, on n'est pas encore dans la crise, hein, mais on commence à avoir quelques appréhensions. Puis vous pouvez compter sur les radios continues là, pour augmenter votre peur. Hein. On voit aussi que Dieu est fidèle même quand notre foi bascule un peu, notre foi vacille. On peut citer 2 Timothée 2,13. Dieu demeure souverain quand tout semble perdu. Et là, on connaît ce passage de Romains 8, 28. Ce que l'Éternel a fait pour la veuve, relever ce qui était tombé, redonner la vie là où tout semblait fini, il l'a accompli pleinement en Jésus-Christ. Je citerai Jean 11, verset 20, 25. Avec Élie, la mort a reculé. Avec le Christ ressuscité, elle est vaincue pour toujours. 1 Corinthiens 15, verset 55 et Apocalypse 1, verset 17-18. Belle proclamation de la victoire de Jésus. La croix et le tombeau vide proclament que Dieu a toujours le dernier mot. Est-ce qu'on y croit aujourd'hui? lorsqu'on voit le prix de l'essence monter, bon, c'est pas grand-chose. Hein. Lorsqu'on voit ce qui se passe, les empires qui cherchent à se développer davantage, il y en a qui veulent prendre le Groenland, il y en a qui veulent récupérer Taïwan. Bon, je vais pas faire la liste aujourd'hui, il y en a beaucoup. Mais voilà, est-ce que on est prêt à croire que Dieu maîtrise tout ça? Moi, je vous le confesse, j'ai parfois du mal à croire dans tout ce bazar qu'on vit de plus en plus en ce moment, que Dieu maîtrise tout ça. Alors je me raisonne, je me dis, oui, Seigneur, ta parole me le dit et je crois que tu auras toujours le dernier mot. Le vrai Dieu est celui qui agit, qui parle, qui sauve et qui donne la vie. Alors notez aussi que 1 roi 17, 8 à 24, ce n'est pas un petit passage, ce n'est pas une petite histoire comme ça, qui n'a pas de... Non, cette histoire a un but particulier. C'est une phase de préparation discrète, mais décisive, avant la démonstration qui va suivre. Dieu révèle déjà sa puissance dans l'intimité et prépare son prophète pour l'affrontement à venir. Tout est en place désormais pour la confrontation du Mont Carmel. Qui est vraiment Dieu ? Baal ou l'Éternel ? C'est la question que je vous renvoie. Qui est vraiment Dieu ? Baal ou l'Éternel ? Alors, évidemment, Baal, c'est peut-être pas le même Baal qu'à cette époque-là, mais on a peut-être des Baals, nous. Hein, vous avez, hein, qu'est-ce que pourraient être nos Baals ? Je vous pose la question. Moi, j'ai travaillé maintenant à vous. Qu'est-ce que pourraient être nos Baals à nous, chrétiens ? L'orgueil, bien sûr, ça c'est le total, c'est le plus gros. Oui ? Oui, on peut voir dans certains politiques un messie. Vous n'en trouverez pas, hein, qu'il soit de droite comme de gauche. Hein. On peut voir, en chercher, dire « Ah, ce politique-là, je pense que c'est mon messie. » Non. Non, il n'y en a pas. C'est difficile, hein, de voir un messie dans les politiques aujourd'hui. Hein. Je reconnais, c'est pas... Mais qu'est-ce que pourraient être nos autres Baals ? Qu'est-ce que pourraient être nos Baals à nous ? Là ? Ouais. L'argent. C'est pas un hasard que Jésus a cité Mammon. Je pense que Mammon, c'est notre plus grand Baal. Évidemment, c'est évident que dans le monde séculier, c'est le cas. Mais même pour nous chrétiens, est-ce qu'on préfère s'appuyer sur notre argent ou sur l'Éternel ? Moi, je confesse, hein, j'avais plus confiance dans mes ressources. Qu'en l'Éternel, et ça a été un défi pour moi. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, moi je vous dis ce que j'ai vécu, c'est pas glorieux, mais je vous le partage. Hein? Parce qu'en fait, Dieu, il est quand même lointain, puis on n'est jamais sûr parce qu'on ne le voit pas, tandis que l'argent, ben, si on l'a, ben, on peut s'assurer de notre... Hein? Et vous verrez dans le chapitre suivant, je ne vais pas spoiler ce que va dire Jean-Baptiste, mais... Il parle de clocher de deux pieds. Et je pense que parfois, nous, les chrétiens, on est un peu comme ça. L'Éternel, Jésus, mais l'argent, et puis... hein? Alors, voilà, l'argent, on en a notre... Celui-là, il est assez évident, est-ce qu'il y en a d'autres ? Alors, il y a les dérivés de l'argent, il y a la réussite professionnelle, il y a je ne sais pas, le pouvoir, je ne sais pas. Mais voilà ce qu'on pourrait avoir. Il y en a d'autres de balles ? Qu'est-ce qu'on aurait comme autre balle ? Moi, le sport, oui, le sport. La chanson, le gospel. Ah oui, si ça devient le seul. Si ça devient la seule motivation que nous avons, on peut chanter les louanges de Jésus, mais en réalité être motivé. Bah, je fais exprès de vous provoquer, hein, vous avez compris. On peut être motivé uniquement par la musique et le chant. D'ailleurs, je suis sûr qu'hier, parmi ceux qui chantaient, je ne suis pas convaincu que tous croyaient en ce qu'ils disaient. Hein. Mais bon, je ne leur jette pas la pierre. Mais voilà, donc, qu'est-ce qu'on pourrait avoir ? Le sport, la musique, et bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait avoir. Hein. Il y en a d'autres. Hein. Voilà, on a fait le tour de tous nos balles. Ouais. Allez, on va prier maintenant. C'est terminé. Seigneur notre Dieu, éternel vivant, nous te rendons grâce pour ta parole qui nous a rappelé aujourd'hui que tu agis dans la crise. Quand nos ressources s'épuisent, tu demeures suffisant. Quand notre foi vacille, tu demeures fidèle. Apprends-nous, comme la veuve de Sarepta, à te faire confiance au cœur du manque et à obéir à ta voix, même que quand cela paraît déraisonnable. Délivre-nous de l'illusion de tout maîtriser. Et façonne en nous une dépendance humble et joyeuse envers toi. Et quand l'épreuve nous frappe, quand la souffrance nous dépasse et que nos questions restent sans réponse, donne-nous une foi vraie, une foi qui ose crier vers toi sans masque. Garde-nous de l'amertume et du découragement. Relève ceux qui sont abattus, console ceux qui pleurent et soutiens ceux qui traversent la maladie, le deuil, la solitude ou la peur. Nous te louons parce que tu as vaincu la mort en Jésus-Christ. Fais grandir en nous l'espérance du Christ ressuscité. Que cette assurance nous accompagne chaque jour. Quand tout semble fini, tu n'as pas dit ton dernier mot. Envoie-nous maintenant, remplis de ton esprit, pour marcher dans l'obéissance et porter autour de nous une parole vraie et vivante. À toi soit la gloire, l'honneur et la louange, dès maintenant et pour toujours. Amen.